Radio France Internationale, il est 5h à Paris, 3h en temps universel.
Marion Cazanov.
À la une, ces marches blanches en France après le meurtre d'un fidèle musulman dans une mosquée. Le tueur est toujours en fuite. Une partie de la classe politique appelle un sursaut national face à l'islamophobie. Jour d'élection au Canada, législatives anticipées dont les dernières heures de campagne ont été bouleversées par cette attaque meurtrière à la voiture Bélier à Vancouver. En Allemagne, la gauche et la droite vont acter leur alliance aujourd'hui pour former une coalition. La droite, gagnante des dernières élections, a dû faire de nombreuses concessions pour parvenir à cet accord. Au Sénégal, une page se tourne dans la vie politique avec le départ à la retraite de Moustapha Niass, fondateur du parti AFP. Et puis la Syrie se débarrasse d'un poids. Sa dette va être remboursée à la Banque mondiale, dette de 15 millions de dollars. Elle sera réglée par l'Arabie Saoudite et le Qatar. En France, la petite ville de la Grande Combe dans le sud, toujours sous le choc après le meurtre d'un fidèle musulman dans une mosquée. Aboubacar Cissé avait 22 ans, d'origine malienne. Il a été tué de plusieurs coups de couteau vendredi. Le meurtrier est toujours recherché et potentiellement extrêmement dangereux selon les autorités. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier dans cette ville près d'Alès et également à Paris. Rassemblement contre l'islamophobie. Si le motif anti-musulman n'est pas encore définitivement prouvé, il reste très probable et cela suscite l'inquiétude d'une partie de la classe politique qui se trouvait hier au rassemblement parisien. Aurélien Devernois.
Il est temps de se ressaisir. Faites cesser ça, tendez la main.
C'est par un appel à tous les Français que Jean-Luc Mélenchon a marqué sa présence à la manifestation contre l'islamophobie à Paris. Rassemblement où le leader insoumis a évidemment remarqué la seule présence de représentants politiques de gauche et écologistes, mais il ne souhaite pas polémiquer.
Aujourd'hui, il y a ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait, qui ne l'ont pas vu. Laissez-leur le temps de comprendre. N'allons pas, d'une manière ou d'une autre, permettre à qui que ce soit d'échapper à sa responsabilité sous le prétexte d'une parole qui aurait été prononcée et qui ne le regretterait pas.
La députée socialiste Fatia Kelouachi appelle de son côté à un sursaut, quel que soit le bord politique.
Là, je crois que cet assassinat symbolise quelque chose de fort. Et donc nous, les élus, nous devons prendre conscience que l'islamophobie tue.
Dans le viseur, le bloc central macroniste, le chef de l'État a attendu dimanche après-midi pour réagir, mais aussi le gouvernement et en particulier le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est finalement rendu à Alès ce dimanche.
Je veux aussi dire un message de solidarité à la communauté de nos compatriotes français musulmans. Nous sommes tous des enfants de la République.
Un discours accueilli avec un grand scepticisme, place de la République. Voilà un mois, celui qui est aussi ministre des cultes avait scandé « Abat le voile » lors d'un rassemblement contre l'islamisme.
Aurélien Devernois. La semaine qui débute sera cruciale pour les négociations en Ukraine. C'est ce que pense en tout cas l'administration Trump qui continue de faire pression pour un accord de paix. Pression notamment sur le président ukrainien pour qu'il accepte de renoncer à la Crimée, cette région annexée par la Russie en 2014. Il y a quelques jours, Volodymyr Zelensky avait pourtant dit tout le contraire. Sur le front, Kiev assure que les combats se poursuivent dans la région russe de Koursk. Alors que le Kremlin a dit l'avoir reprise de son côté, la Corée du Nord, pour la première fois, confirme le déploiement de troupes en Russie. Les Canadiens se rendent aux urnes aujourd'hui pour des législatives anticipées. Les derniers jours de campagne ont été bouleversés par cette attaque à Vancouver, attaque à la voiture Bélier qui a fait 11 morts et des dizaines de blessés. L'auteur de l'attaque souffre de problèmes de santé mentale et vient d'être inculpé de meurtre. Le Premier ministre Marc Carney, chef du Parti libéral et favori de l'élection, a modifié son agenda hier pour se rendre sur place. En Allemagne, la gauche et la droite doivent sceller leur alliance aujourd'hui à l'occasion d'un mini-congrès. Le contrat de coalition sera soumis au vote entre le Parti chrétien-démocrate et les sociaux-démocrates. L'issue du vote ne fait aucun doute, mais ce contrat ne satisfait aucune des deux parties. À Berlin, Nathalie Versieux.
Le contrat de coalition est une couleuvre dure à avaler pour une partie du camp conservateur. Trop de dettes, une politique migratoire pas aussi stricte qu'espérée, le futur chancelier Friedrich Merz a dû faire d'importantes concessions aux sociaux-démocrates pour s'assurer de leur participation au prochain gouvernement. Les négociations se sont déroulées en un temps record, mais le résultat final ne satisfait vraiment ni à droite ni à gauche. résultat, l'extrême droite vient de passer en tête des sondages, créditée de 26%. C'est plus que la CDU qui a reculé de 4 points par rapport à son résultat déjà maigre lors des législatives de fin février. Pour Friedrich Merz, il est donc urgent de se mettre au travail. Il doit être élu chancelier par les deux parties de sa coalition le 6 mai au Bundestag. D'ici là, le SPD devra à son tour approuver le contrat de coalition dans 2 jours. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
L'Allemagne qui commémorait hier la libération du camp de concentration nazi de Bergen-Belsen. 80e anniversaire de cette libération. Une cinquantaine d'anciens prisonniers étaient présents à cette cérémonie. Ils ont demandé à ne pas oublier ce qui leur était arrivé. Plus de 50 000 personnes sont mortes dans ce camp, dont la jeune écrivaine Anne Frank, connue pour la publication de son journal intime écrit en partie lorsqu'elle était cachée avec sa famille à Amsterdam. RFI, 3h05 en temps universel et à Dakar, au Sénégal. Passage de témoins au sein du parti AFP, l'Alliance des Forces de Progrès. Moustapha Niass, figure emblématique du paysage politique sénégalais, cède la tête du parti à son successeur Mbaye Ndiaye, député maire de Ngoundiane. À 85 ans, Moustapha Niass tourne donc une page d'une longue carrière. Il a fondé l'AFP en 1999, puis est devenu Premier ministre et plus tard président de l'Assemblée nationale. Il a participé en tout à 5 présidentielles, mais son parti aujourd'hui est en grande perte de vitesse. Son retrait s'inscrit dans un contexte de profond renouvellement de la classe politique sénégalaise, comme le détaille Moussa Diaw, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.
On peut le rappeler, à la première alternance, il avait obtenu 11 députés à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a une érosion de son parti au regard même d'ailleurs de l'évolution politique du Sénégal. La plupart des partis qui étaient au pouvoir ont perdu de leur influence. C'est valable pour le PS, le PDS également. Ce sont des partis qui ont perdu leur influence en quittant le pouvoir. Il y a un tournant et il faut s'adapter à ce tournant. Le passage de relais de Moustapha Niass montre bien les exigences de l'espace politique sénégalais, c'est-à-dire la nécessité de changer des partis politiques, de mettre des personnalités avec de nouvelles idées, des jeunes. Le changement à la tête des partis, je ne sais pas si ce sera suffisant ou pas, mais dans tous les cas, les défis sont nombreux et il va falloir effectuer beaucoup de changements au niveau du discours également et au niveau de l'action politique pour pouvoir mobiliser autour d'un certain nombre d'enjeux.
Le professeur de sciences politiques Moussa Diaw avec Juliette Dubois. Dans l'actualité africaine également, cette visite du chef de la diplomatie belge en RDC. Maxime Prévot est arrivé hier à Kinshasa. Il rencontrera tout à l'heure le président Félix Tshisekedi. Maxime Prévot a salué auparavant les récents signes d'apaisement entre Kinshasa et Kigali, notamment cette déclaration de principe signée vendredi à Washington entre les deux pays pour trouver un projet d'accord de paix d'ici la fin de la semaine. L'Arabie Saoudite et le Qatar vont régler la dette de la Syrie auprès de la Banque mondiale, soit 15 millions de dollars, bientôt remboursés donc, et qui pourraient déboucher ensuite, Anishka Kumor, sur des aides pour la reconstruction du pays.
C'est la première fois que l'Arabie Saoudite s'engage ainsi en faveur de la Syrie depuis la chute du régime de l'ancien dictateur Bachar el-Assad en décembre dernier. La Syrie doit 15 millions de dollars d'arriérés à la Banque mondiale. Problème, Damas manque de devises étrangères. Un projet d'utiliser les actifs syriens gelés à l'étranger n'a pas abouti, mais une fois la dette épongée, la Syrie pourrait à nouveau bénéficier de subventions approuvées par l'institution financière internationale. Les besoins du pays détruit par des années de guerre sont immenses. Les coupures d'électricité font partie du quotidien des Syriens et le gouvernement doit maintenir le versement des salaires dans le secteur public. Mais les lourdes sanctions imposées par les États-Unis durant le régime d'Assad sont toujours en vigueur et même si Washington a suspendu certaines d'entre elles afin d'encourager l'aide humanitaire, l'administration Trump ne s'est pas engagé de manière significative avec les nouveaux dirigeants du pays.
Agnieszka Kumor du service économie de RFI. Et dans le même temps, l'Allemagne et l'Autriche discutent du retour des réfugiés syriens. Les deux pays ont envoyé leur ministre de l'Intérieur à Damas pour en parler. Leurs échanges ont également porté sur les menaces sécuritaires auxquelles fait face la Syrie. RFI 5h10 à Paris, 3h10 en temps universel. À suivre, un jour au village.